Europe 1.
<t'en> 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, une émission généralement chaleureuse, où l'on aime à rire et plaisanter tout en fortifiant notre culture générale. Et grâce à la bonne humeur communicative du Suisse le plus drôle depuis Jean-Luc Godard, c'est vous dire. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est vrai que d'habitude, surtout grâce à vous, cette émission c'est tout pour la déconne. Sauf qu'aujourd'hui on réunit trois personnages qui n'avaient pas franchement envie de déconner.
Mathieu, glaçants hommes de glace. C'est notre thème cet après-midi. À commencer par le premier, très très ancien, puisqu'il a vécu il y a 53 siècles, et qu'un couple de randonneurs l'a retrouvé mort assassiné et tout glacé il y a 30 ans à peine dans les Alpes. Les scientifiques l'ont appelé Ötzi. Et ont fait de nombreuses découvertes sur lui depuis. Puis je vais vous raconter un autre homme de glace, Richard Kuklinski, Iceman. C'est le surnom de ce tueur en série resté célèbre aux États-Unis. Bon, la raison est simple, il congelait ses victimes pour induire en erreur la police qui cherchait à déterminer le jour et l'heure des décès.
C'est pas con, remarque.
Ouais. Enfin Mathieu, si je peux parler de Richard Kuklinski sans crainte de représailles, sachant qu'il est mort il y a plus de 15 ans, tel n'est pas votre cas cet après-midi et non. J'applaudis d'avance votre courage. Puisque vous avez décidé de nous parler d'un homme de glace non seulement vivant, mais au pouvoir de la deuxième puissance militaire mondiale et qu'il a l'intention d'y rester jusqu'en 2036, j'ai nommé l'excellent président Vladimir Poutine.
Oui, avant d'ailleurs d'entamer ce portrait, je tiens à saluer ma famille, mes proches, ma compagne, pour la laisser au cas où un dernier adieu et leur dire qu'il faudra récupérer l'enveloppe que j'ai laissée sur le piano où il est écrit « à ouvrir chez le notaire ». Oui, aujourd'hui, je vous livre le portrait, non pas à 99%, c'est trop dangereux, mais disons à 19% vrai de Vladimir Poutine, le président russe, qui le sera donc d'ailleurs, vous l'avez dit, jusqu'en 2036, alors autant pas trop se fâcher. Avec nous également en studio aujourd'hui, notre fine équipe de chroniqueurs, à commencer par cette historienne prolixe, dont on ne se lasse pas, même si Stéphane en convient.
Non, il faut la faire taire à un moment.
Clémentine Portier-Kaltenbach,
oui,
et ses trompettes
bon,
de la
redonner. Bah, je comprends qu'une fois de plus, je vais faire l'objet de votre humour caustique, comme ce malheureux Vladimir Poutine, mais ce n'est pas la peine de faire de l'humour avec les femmes, voyez-vous, puisqu'on les fait beaucoup rire en les chatouillant. C'est ce que nous dit Philippe Bouvard. Les femmes ne sont-elles pas les instruments interchangeables d'un plaisir toujours identique ? Écrivait Marcel Proust, dont chacun sait qu'ils n'ont pas laissé un rayon en femme, enfin. William Thackeray, auteur du 19e, nous rappelle que depuis Adam, il n'y a guère de méfaits en ce monde où une femme ne soit entrée pour quelque chose. Alors, messieurs, si vous nous parlez des hommes de glace, moi, je vais vous parler d'hommes tout à fait glaçants, les misogynes.
Mais la liste est longue.
Que ceux qui se sentent visés quittent ce
boulot.
Studio.
Ah non,
nous sommes absolument féministes.
Nous sommes d'authentiques féministes avec Stéphane.
C'est louche, vous en faites un peu trop même.
Qu'est-ce que notre nature.
Lui aussi, c'est un féministe.
Lui aussi est très féministe. Il remonte aux origines des choses de notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, il s'interroge sur qui a créé le permis de conduire.
Eh
bien, c'est David Castello-Lopez.
Bonjour David.
Bonjour. Je vous parlerai bien sûr des origines du permis de conduire.
Oui.
Dans ma chronique aujourd'hui, on verra, c'est pas mal.
Bah, c'est-à-dire qu'il a fallu l'inventer une fois que la voiture a été
construite. Voilà, il y avait un préalable.
J'ai cru que vous allez dire, il a fallu l'inventer quand les femmes ont voulu prendre le volant. Je me suis dit que vous voulez faire un écho misogyne.
Et c'est pas mon genre.
Pas du tout.
Ne faites pas passer sur moi vos blagues misogynes, Mathieu. Alors, avec Olivier Pouls, eh bien, nous allons parler d'un autre dessert. Décidément, il adore les desserts. Mais vous aussi, je crois.
Mais surtout, on est dans la thématique du jour. Puisqu'on parliez des hommes de glace, moi je vous parle d'un dessert en glace, l'omelette norvégienne. Vous allez voir qu'il y a une histoire absolument stupéfiante sur l'invention de ce dessert.
Glaçant ou stupéfiant?
C'est glaçant.
C'est pas très loin des œufs à la neige.
Ben, il y a un peu des. Oui, il y a de la meringue dedans.
Ouais.
Il y aura débat.
Mais il y a une raison pour ça.
Il y aura débat en cette fin d'émission. Enfin, les amis, vers 5h-10, nous remettrons les compteurs à zéro, ce qui ne devrait pas être très compliqué vu qu'ils sont déjà souvent à zéro. Nous jouerons à Burn to be Alive, le quiz fratricide qui oppose chaque jour Clémentine à Stéphane. Mais tout de suite, chaussons nos crampons et astiquons nos piolets. Direction la haute montagne. À la rencontre d'un drôle de campeur, Stéphane Bern nous raconte la découverte de Ötzi, l'homme de glace.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
chacun sait que vous êtes suisse, Mathieu, et d'un tempérament contemplatif. Mais je ne sais pas si vous êtes un amoureux de la randonnée en montagne.
Oui, je suis un amoureux de la randonnée, oui.
Et donc, Mathieu, ça vous fait un point commun avec Helmut et Erika Simon, un couple de randonneurs allemands qui étaient en train de crapahuter dans les Alpes un matin de septembre 1991 à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. L'air est clair, le couple a déjà atteint la belle altitude de 3200 mètres lorsqu'ils décident de couper par un petit col en longeant le glacier. C'est là, à 70 mètres du sentier, que Helmut et Erika perçoivent alors une forme étrange à moitié saisie par la glace. En s'approchant, la macabre découverte se confirme, Helmut et Erika découvrent un cadavre dénudé, à la peau brunâtre, décharné, presque squelettique, le corps est étendu sur le ventre, le nez dans la terre humide. Helmut et Erika ne s'affolent pas plus que ça, ce sont des randonneurs chevronnés, ils savent très bien que les glaciers rendent souvent le corps d'alpiniste disparu depuis des années, parfois depuis des décennies. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils viennent de faire l'une des découvertes archéologiques les plus incroyables du XXe siècle. Dans l'immédiat, il faut se dépêcher de redescendre le corps, la fin de l'été arrive et les températures baissent vite en montagne cette saison. Les secours arrivent. On dégage le corps un peu brutalement et 3 jours plus tard, la dépouille arrive en Autriche, à Innsbruck, où le procureur a déjà ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort. Assez vite, les enquêteurs décident de lui donner le nom de Ötzi, parce qu'on l'a retrouvé dans le massif alpin de Lützal. Les médecins légistes ne sont pas au bout de leur surprise. D'abord, le corps montre des traces de blessures, dont une vilaine plaie à la tête. Ensuite, on constate que Ötzi est un drôle de cadavre. C'est un homme barbu de 45 ans qui a plutôt un physique de jockey, 1m60 pour un poids estimé à 45 ou 50 kilos. Il avait les dents du bonheur, une bonne soixantaine de tatouages et il chaussait du 38. Mais surtout, les chercheurs constatent que Ötzi n'est pas né d'hier. Vous connaissez forcément la marque du vieux campeur, Mathieu. Là, c'est le très très vieux campeur. Ötzi est mort il y a 53 siècles à la toute fin du néolithique. 53 siècles, c'est presque difficile d'imaginer ce que c'est. Hein. Pour vous donner une idée, il s'est passé plus de 700 ans entre la mort de Ötzi et le début de la construction de la pyramide de Khéops.
Ah oui, ça fait vraiment un très vieux campeur.
Évidemment, on se détend un peu du côté des policiers. Hein.
presse pas l'enquête. Quoi.
En revanche, le monde scientifique entre en ébullition parce que Ötzi est tout simplement la plus vieille momie naturelle jamais retrouvée, en tout cas à l'époque, parce que depuis, le record a été battu. Tout le monde se bat pour savoir à qui appartient la momie. À ce petit jeu, c'est l'Italie qui gagne, parce que c'est bien sur son territoire qu'on l'a retrouvée, à 92 mètres près. Une équipe internationale se met en place et on commence à examiner Ötzi sous toutes ses coutures, en mobilisant toutes les technologies possibles et imaginables. Et forcément, on découvre beaucoup de choses sur l'homme des glaces. D'abord, il n'était pas en pleine forme. Il a les jambes musclées, ses articulations montrent une habitude de la montagne, mais Ötzi a connu sa part de gamelle avec plusieurs côtes cassées et mal ressoudées. Il avait aussi de l'arthrite, un kyste sur un doigt de pied qui devait lui faire un mal de chien. Et il avait probablement mal au ventre en permanence parce qu'il ne digérait pas le lait et que son estomac était truffé de vers parasites. En examinant ses ongles, les chercheurs ont aussi découvert que Ötzi avait été confronté à plusieurs épisodes de stress intense dans les semaines précédant sa mort. On sait même ce qu'il a mangé quelques heures avant de mourir, de l'épeautre, du cerf et du bouquetin. Et on sait même qu'il est mort au printemps, peut-être en avril, grâce au pollen retrouvé sur lui. Mais il n'y a pas que le corps du pauvre Ötzi qui permet d'en savoir davantage. La glace aussi conserve tout son équipement, ses vêtements, ses armes, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était chargé comme un baudet. Ötzi portait une cape en tissu et plusieurs couches de vêtements en peau de chèvre, de veau, de bouquetin et de chamois. Il portait des bottes confortables et un beau bonnet bien chaud doublé avec de la fourrure d'ours. Il était aussi équipé d'un sac à dos, en tout cas une sorte de hotte, dans laquelle il rangeait toute une tripotée de petits ustensiles pour faire du feu, aiguiser ses flèches ou réparer ses vêtements. Il transportait aussi un arc démonté qui aurait été plus grand que lui une fois assemblé, un bel arc en bois d'if et plusieurs flèches qui n'étaient pour la plupart pas prêtes à être tirées. Ötzi avait aussi sur lui un poignard en silex et surtout une très belle hache en bronze. Et ça fait tiquer les chercheurs. Eux s'y portent des armes et des vêtements qui ne sont pas ceux d'un simple chasseur-cueilleur. Ces tatouages, cette hache en bronze, la qualité de son équipement, le fait que ses mains sont plutôt lisses et protégées des travaux les plus durs, tout porte à croire qu'il avait un certain statut. Chaman, peut-être, ou chef de clan. Mais on ne sait toujours pas comment il est mort. Les scientifiques ont assez vite compris que Tsi n'est mort ni de faim ni de froid. On sait aussi que c'est pas une chute qui a eu sa peau et qu'aucune des petites misères dont il souffrait n'était fatale à court terme. C'est en 2001 que les chercheurs ont commencé à avoir des soupçons. Cette année-là, l'un d'entre eux découvre sur une radio une petite tache dans le dos de Tsi, au-dessus de l'épaule. Intrigué, l'équipe creuse et découvre qu'il s'agit en fait d'une plaie qui fait beaucoup penser à celle que provoquerait une pointe de flèche. Autrement dit, Tsi se serait fait tirer dans le dos. On découvre aussi une autre blessure, passée inaperçue jusqu'alors. Tsi avait été blessé à la main 2 jours avant sa mort. Un profond coup de poignard entre le pouce et l'index, une blessure défensive typique dans un combat au couteau. 5 ans plus tard, bingo! Un scanner plus performant permet de préciser l'étendue des dégâts. Non seulement l'hypothèse de la flèche se confirme, mais on découvre qu'elle a touché une artère sous la clavicule gauche. C'est une très vilaine blessure. Les médecins qui la découvrent signalent qu'aujourd'hui, et sans prise en charge immédiate, ce genre de blessure provoque la mort 3 fois sur 5, en général assez vite, à cause d'une hémorragie interne. Alors forcément, en pleine montagne, et il y a ça de 53 siècles, le pauvre Tsi n'avait aucune chance d'échapper à son meurtrier, ou plus probablement à ses meurtriers. Pourquoi plusieurs ? Pour 2 raisons. D'abord, les chercheurs ont trouvé du sang sur ses armes, du sang de 4 personnes différentes, ce qui laisse penser que Tsi ne s'est pas laissé faire sans combattre. Mais surtout, la reconstitution a montré que la flèche qui a tué notre randonneur a été tirée à 30 ou 40 mètres derrière lui, en contrebas, au moment où il tournait le dos à son assassin, peut-être au moment où il essayait de repérer ses autres poursuivants. L'hypothèse la plus probable, c'est celle-ci. Tsi a été abattu par un sniper de l'âge de bronze à qui on peut reconnaître au moins une chose. Il a réussi un tir spectaculaire. Rien n'est jamais définitif en matière de recherche scientifique, mais a priori, on a donc trouvé comment Tsi était mort. Ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne pourra sans doute jamais savoir avec certitude, c'est pourquoi on l'a tué, ni même qui l'a tué.
Europe 1, historiquement vôtre.
Beaucoup de scoops historiques aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, puisqu'on a appris que 53 siècles avant Jésus-Christ, il y avait déjà des snipers qui se fournissaient, qui plus est, aux vieux campeurs. Pour continuer à parler de Tsi, l'homme des glaces, nous avons le plaisir d'accueillir la biologiste Evelyne Heyer. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Evelyne Heyer, vous êtes professeure d'anthropologie génétique au Muséum d'Histoire Naturelle et auteur de l'Odyssée des Gènes, paru chez Flammarion. 53 siècles nous séparent de Tsi, et pourtant son histoire continue de s'écrire au présent. Vous pensez qu'on n'en aura jamais fini avec le mystère Tsi, et c'est peut-être ça qui le rend d'ailleurs aussi fascinant.
Ce qu'il y a de génial avec Tsi, c'est qu'il a été conservé dans les glaces, donc il est super bien conservé. En général, de cette période-là, on a juste des restes d'os, donc on peut retracer des choses, mais beaucoup moins. Là, vous rendez compte, on a ses vêtements, on a ses tatouages, on a ce qu'il a mangé, on a quel parasite il avait à l'intérieur de lui-même. Donc, c'est complètement fascinant tout ce qu'on peut regarder à partir, je dirais, d'une seule momie, cette fois-ci naturelle. Vive les glaces.
Fascinant, je dirais même intriguant pour les néophytes. Est-ce qu'on a du mal presque à comprendre comment on peut atteindre un tel degré de détail, notamment les parasites dans son ventre. Comment on est sûr qu'il les avait avant de mourir? Les parasites et les vers auraient pu entrer après, je ne sais pas comment on peut dire qu'il avait mal au ventre une semaine avant sa mort.
Parce qu'il y a des parasites qui ne vivent que dans l'intestin. Donc, quand on les trouve, on est sûr que c'était dans l'intestin.
D'accord.
Voilà.
Ah, c'est fort. S'il n'avait pas été dans la glace, qu'est-ce qu'on aurait retrouvé de Tsi? Rien.
On aurait certainement retrouvé juste son squelette. Comment on va retrouver, par exemple, des hommes de Néandertal, on retrouve leur squelette, quoi. Et là, avec le squelette, on peut quand même faire des choses. On peut trouver l'ADN, on peut trouver d'où venaient les gens, ce qu'ils ont mangé, mais on n'arrive pas à ce degré de finesse d'études complètes comme ça a pu être le cas pour Tsi.
Mais justement, vous parlez de tests ADN. Qu'est-ce que les tests ADN ont permis de raconter sur la vie de Tsi et sur ce qui lui est arrivé ?
Alors c'est marrant parce que les premières études ont montré qu'il ressemblait beaucoup aux Sardes, aux gens de Sardaigne. Et donc il avait été décrit comme le premier touriste de la préhistoire. Un Sarde qui serait venu passer des vacances dans les Alpes.
C'est
et
faux.
En fait on s'est rendu compte après que ça collait pas. Et pourquoi on l'a trouvé proche des Sardes? Parce qu'il y a 5000 ans, en Europe, on n'a pas encore eu la dernière grande migration qui va arriver quelques siècles plus tard, des nomades des steppes, des Yamnaya, des nomades des steppes qui arrivent il y a à peu près 5000 ans et qui vont remodifier le panorama génétique de l'Europe, sauf les Sardes. Et en fait, en refaisant les calculs, en tenant compte de cette invasion des nomades des steppes, on se rend compte que oui, Ötzi, il vient bien du Tyrol, c'était pas un touriste.
Il était petit, on a dit, un format jockey, c'était la taille standard à l'époque et son poids, ou c'était, il était petit aussi pour l'époque, on sait ça.
Oui, parce qu'avec l'arrivée du néolithique, on a un changement d'alimentation dans les populations humaines et elles se retrouvent en moins bonne santé que les chasseurs-cueilleurs d'avant. Et on voit en général, partout en Europe, une diminution de la stature, c'est-à-dire les anciens. Les chasseurs-cueilleurs mesuraient plutôt 1m75 et on voit au moment du néolithique, une dégradation de l'état de santé et du coup une diminution de la stature des populations.
Non, ce qui m'intrigue quand même, c'est bon, Erika et Helmut Simon ont donc découvert le corps, on l'emmène, etc. Et à aucun moment, les enquêteurs commencent à travailler sur comme si c'était.
Un meurtre récent.
Et à aucun moment, la hotte qu'il avait sur le dos, les habits du Néandertal, le bonnet d'ours.
Ils ne se sont pas dit, tiens. Vintage comme tenue.
Non, mais ils se sont dit que c'était peut-être un néo-rural.
il avait tué un ours dans le sud Tyrol.
Non, mais c'est surprenant. Oui. Non, mais je pense que. Bon,
très vite, ils ont dû s'en
rendre. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte quand même très vite.
Non, mais avouez que c'est quand même pas commun, non?
C'est vrai qu'on se promène pas régulièrement avec une peau d'ours dans le métro, quoi.
Oui. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on n'en trouve pas plus, finalement, des Ötzi. Il reste assez unique, et dans cet état de conservation, en tout cas, c'est fréquent qu'on retrouve des gens peut-être moins bien conservés que lui, mais aussi
non,
vieux.
Non, alors, on a des momies plus anciennes, mais qui sont plutôt liées à des climats très secs. Par exemple, on a un ensemble de momies dans le désert d'Atacama au Chili, qui datent de 2000 ans, donc de 20 siècles avant Ötzi, et on en a une très ancienne dans la grotte des esprits au Nevada, aux États-Unis, qui est encore 2000 ans plus ancienne, qui date d'il y a environ 9000 ans. Mais en général, on voit que c'est dans des endroits plutôt secs qu'on va retrouver cette momification qui permet de conserver. Dans la montagne, c'est plus rare, sauf dans des endroits très froids, ce qu'on a retrouvé pour les mammouths, par exemple.
Donc, au fond, vous êtes assez contente du réchauffement climatique, parce que les glaces fondent, et font sortir, alors certes, un peu de bactéries, des virus, etc.,
mais aussi des
gens qui avaient disparu depuis 53 siècles.
Alors, Ötzi a été assassiné par une flèche dans le dos, un coup bas, un sale coup. L'assassin court toujours. On n'a jamais pu identifier. Stéphane a dit un ou plusieurs assassins. Est-ce qu'on a une idée précise de ce qui s'est passé, de qui étaient ces gens par rapport à notre Ötzi, ou ça, en revanche, ça reste flou?
Alors pour l'instant, c'est flou, mais il faudrait voir dans quelle mesure on arriverait à extraire de l'ADN des gens qui l'ont attaqué, parce que visiblement il reste des traces de sang, notamment sur son poignard en silex. Faut voir, peut-être que avec les technologies on arrivera à extraire l'ADN de ces taches de sang et donc à pouvoir trouver qui étaient les meurtriers.
Et ce qui est fou, c'est que vous êtes capable aujourd'hui de redonner un visage à Ötzi.
Alors, on peut faire un portrait robot. Par exemple, on peut retrouver, si on a les bons bouts d'ADN qui ont été conservés, on peut retrouver la couleur de peau. Oui. C'est comme ça qu'on a montré que les premiers Européens étaient noirs de couleur de peau jusqu'à il y a environ 5-6 000 ans. Alors, je connais pas l'état exact de l'ADN d'Ötzi et s'ils ont regardé sa couleur de peau. En tous les cas, je sais qu'ils ont regardé pour la couleur des yeux. Il n'avait pas les yeux bleus, il avait plutôt les yeux marrons.
Ötzi, il était armé jusqu'aux dents avec son arc, son poignard, sa hache en bronze. Et c'était quoi les menaces auxquelles il devait faire face à l'époque? C'était qui ses prédateurs, entre guillemets?
Ben, les autres hommes, hein, comme beaucoup.
Des clans rivaux.
Mais il y avait des loups à cette époque-là encore.
Ah oui, il y avait des bêtes.
Oui, il y avait des bêtes quand même. Il y avait des loups. Il y avait aussi des bouquetins. Je ne sais pas s'ils attaquent, ils sont plutôt timides. Mais en tous les cas, quand ils attaquent, ils ont des grandes cornes. Et puis surtout, ils devaient certainement chasser pour se nourrir.
Ah oui, c'est surtout des armes pour chasser.
Je veux dire, il n'y avait pas d'arrêt bar en haut du col.
C'est
quoi.
Ça. Ça, c'est dommage. Ils ne pouvaient pas prendre une bonne fondue, arriver en haut, un petit verre de vin chaud. Et non, c'était une autre époque.
Et alors, puisque vous évoquez son équipement, il avait. Ce qui me fascine, c'est qu'il avait des tatouages. Donc, on se tatouait déjà au néolithique. Il n'était pas donc chasseur-cueilleur. Il était plus que ça. Et on savait quelle fonction il avait. Est-ce que ses vêtements racontent quel était son métier? Il était chef de clan? Il était chaman?
Alors, on n'arrive pas jusque-là dans le détail. Par contre, l'hypothèse de chaman, c'est parce qu'il avait des médicaments à base de plantes sur lui. Maintenant, peut-être que tout le monde en avait à cette époque-là. Non, ce qui est plus remarquable, c'est vraiment sa hache en bronze qui était à cette époque-là un signe de statut assez élevé. Donc, c'était certainement quelqu'un qui avait un certain prestige. Sa fonction exacte, c'est plus difficile à retracer.
C'était une sorte de Stéphane Bern de l'époque.
Il est monté très haut. Il est monté très haut.
Oui, mais c'était une zone de transhumance.
Oui.
Donc c'est un chemin qui était utilisé.
Mm-hmm. Parce que visiblement, on utilise moins ce chemin aujourd'hui.
Oui, il y a des tunnels, je crois.
Vous montrerez le tunnel du Mont Blanc, Stéphane, un jour.
Ötzi a été trouvé en 91. On en a trouvé, donc, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup, enfin quelques-unes, disons. Ouais. Plus ancienne depuis. La plus ancienne aujourd'hui, celle qui a le record du monde, c'est celle du Nevada.
Oui, Nevada, elle date de 9000 ans, donc 90 siècles. C'est la cave des esprits, elle s'appelle.
Et elle est en quel état ?
Elle s'appelle comment elle s'appelle ?
La cave des esprits.
C'est le nom de la momie.
C'est le nom qui a été donné à la momie parce que c'est là qu'elle a été trouvée.
Oh, c'est moins joli qu'Ötzi.
Vous pourrez leur dire.
Vous pouvez passer un coup de fil, Stéphane.
Non, mais je ne sais pas.
C'est insupportable. Changer le nom de cette personne. Et elle est dans quel état? Parce que moi, j'ai vu des photos d'Ötzi que je vous invite à aller voir sur Internet. C'est facile à trouver. Il est quand même extrêmement bien conservé pour 53 siècles. L'autre momie dont vous parliez, c'est le même niveau de conservation?
Non, c'est pas le même niveau parce que c'est vraiment, d'abord, elle est beaucoup plus ancienne et en plus, c'était dans un truc plus sec. Donc, on a le corps un peu tout resserré, quoi. Oui. Ouais. Non, la nôtre est la plus belle.
Vous l'avez vue, vous ?
Non, malheureusement, j'ai vu des reportages, j'ai vu en photo, mais je ne l'ai pas vu en vrai. Mmh. Au Musée de l'Homme, on a environ une soixantaine de momies aussi. C'est toujours bouleversant d'être face à une momie.
La position dans laquelle est retrouvée la momie, je ne sais pas si on parle d'une momie d'ailleurs, on peut parler d'une momie, même s'il n'a pas été momifié. C'est la nature qui l'a momifié, la position est touchante. Parce qu'on sent une position... des derniers instants d'une vie, c'est assez émouvant.
C'est assez émouvant. Mais les plus folles, c'est quand même les momies du Chili, où là, finalement, ils enlèvent la peau, ils enlèvent tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps, et ils remettent de la peau après dessus, en remplissant d'argile l'intérieur du corps.
Et ça donne quoi, ça, visuellement?
Visuellement, ça donne des choses qui ressemblent plus à des corps humains parce qu'ils se tiennent mieux quelque part.
Ah, ça se tient bien, d'accord.
Oui. C'est comme ça que vous voulez.
Moi, ça n'a pas d'intérêt pour l'histoire. Mais vous, en revanche, il faudra vous congeler. Je sais pas. Je pense qu'il faudra vous congeler dans une chambre froide. Hibernatus.
J'ai adoré. Louis de Funès dans Hibernatus. J'adore.
C'est drôle.
Oui, c'est tellement drôle. Merci, Evelyne Ayer. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'Odyssée des gènes, paru chez Flammarion. Merci d'avoir été
avec nous. Merci beaucoup.
Au revoir.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires soigneusement compilées dans ses tiroirs. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, place au grand misogyne de l'histoire dont vous avez choisi de nous parler par pure provocation.
Alors la misogynie en tout cas ne date pas d'hier parce qu'elle déjà dans les représentations antiques, la femme est maléfique. Toutes les créatures des textes mythologiques de l'antiquité gréco-romaine féminines, Elles sont violentes, elles sont presque animales. Il y a les harpies, il y a les furies. La mégère, quand on dit c'est une mégère. Une mégère, c'est une ce qu'on appelle une érinie. Une érinie, c'est une divinité infernale, persécutrice, parce que c'est un peu ça l'idée hein, des hommes, c'est qu'ils sont persécutés par les femmes. Et puis, quand les femmes ne sont pas persécutrices, elles sont très curieuses, c'est leur gros défaut. Pandore, cette femme qui ouvre la boîte des secrets de l'humanité.
Sourde de tous nos malheurs.
Elle, exactement, bah, elle est curieuse. Mais bien sûr, Ève, elle est tentatrice, elle est pécheresse, évidemment, c'est elle qui donne la pomme à Adam, elle est coupable de tous les maux. Mais j'étais là déjà sur les textes mythologiques de l'Antiquité. Il y a aussi toutes les déesses, hein. Les déesses, elles sont jalouses, elles sont inquiétantes. Les Amazones sont des meurtrières, sont des femmes meurtrières. Un auteur grec du 3e siècle, Stobé, rappelle une formule en vogue dans la Grèce antique. Un garçon, on l'élève toujours. Même si on est pauvre, une fille, on l'expose. Même si on est riche, on l'expose. C'est-à-dire qu'on l'abandonne à la naissance des filles. On n'en veut pas. Hein. Dans les textes scientifiques aussi, Hippocrate, Aristote, Galien, la femme est débile, la femme est fragile. Hein. Ce discours misogyne, il est donc organisé dès l'Antiquité. Les théologiens et les philosophes, naturellement, dans la foulée de Dev, pécheresse, nous disent qu'elle est lubrique, qu'elle est dangereuse. La femme, en gros, c'est la défectuosité. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des petits bouquins un peu de perles de misogyne, le petit macho de poche, le dictionnaire misogyne. Et ben, et ces bouquins-là, ils ont leurs ancêtres en 1655, un petit livre qui s'appelait L'Enfer de Cupidon, et 1787, Misogynie, où les femmes comme elles sont. Voltaire lui-même, c'était indigné qu'il y ait un article sur les femmes dans l'encyclopédie. Il trouvait que ça n'avait rien à faire dans un livre aussi sérieux. Je pense qu'il n'avait pas encore rencontré Madame Émilie du Châtelet qui a suscité
ça
a dû le calmer un petit peu. Et citons encore ce livre de la fin du 19e intitulé Le mal qu'on dit des femmes. Alors, dans son dictionnaire de la malfaisance, Martin Monestier s'est amusé à relever quelques perles de la misogynie à travers les âges. Et mon Dieu, que c'est cruel, mais c'est souvent tellement bien troussé. On est obligé de le reconnaître. Alors, commençons avec Paul Valéry. Il y a trois sortes de femmes. Les emmerdeuses, les emmerdantes et les emmerdresses. Jules Renard, il y a 2 ans que je n'ai pas parlé à ma femme, c'est pour ne pas l'interrompre. Courteline, qui dit une chose assez juste. La femme ne voit jamais ce que l'on fait pour elle, elle ne voit que ce que l'on ne fait pas. Ça, je pense que c'est un peu un défaut féminin, en effet.
Ah ben, vous êtes misogyne, vous aussi?
Non, mais faut savoir reconnaître, faut faire un pas vers son adversaire. Nietzsche, la femme est une surface qui mime la profondeur. Ça, c'est quand même gratiné. Hein. Et Alain, le philosophe Alain qu'on aime tant pourtant, j'ai souvent envie de demander aux femmes par quoi elles remplacent l'intelligence. Bon, alors, vous allez me dire que l'un de nos plus grands auteurs misogynes fut Sacha Guitry, bien sûr. Les femmes, je suis contre, tout contre, c'est bien connu. Mais le grand théoricien français de la misogynie, c'était Pierre-Joseph Proudhon. Il s'est passionné pour la question ouvrière et la misère, ça c'est assez connu, mais sa bête noire, c'était en fait la tentative d'émancipation des femmes, et il a opéré une intéressante typologie des femmes. En gros, il y a les viragos, et puis la femme émancipée, qui elle est une poule qui chante le coq. Il faut s'en méfier comme de la peste, car les conséquences de son émancipation sont graves et incalculables. C'est quand même pas un hasard non plus si pendant très longtemps, les tempêtes, les ouragans, les tornades, les cyclones
portaient des noms de femmes.
Exactement.
Scandaleux.
Et il a fallu attendre les années 70 et les récriminations des féministes pour qu'on commence à donner des prénoms masculins à ces phénomènes climatiques. Enfin, d'une manière générale, fort heureusement, grâce à l'action des féministes, le terme de misogynie désigne aujourd'hui une survivance ridicule, voire une pensée arriérée et qui n'est pas de saison, en tout cas dans ce studio. Dieu merci, mais enfin, une petite dernière mignonne quand même pour la route.
Vous aimez ça,
Oui. Derrière chaque grand homme, il y a une femme qui n'a rien à se mettre. Très jolie. Et puis cette dernière, qui résume tout, si vous voulez mon avis, le mystère de l'homme, c'est que la femme puisse l'aimer.
Ah, c'est plus beau. C'est plus juste.
Merci Clémentine. Bon.
Et ce qui prouve bien que la misogynie n'a pas de sens, car l'homme et la femme sont égaux, en tout cas dans la nullité, c'est le quiz, l'épreuve qui arrive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Notre spécial homme de glace continue, mais l'heure de l'affrontement a sonné. Clémentine Portier-Kaltenbach contre Stéphane Bern, c'est de là ont brisé la glace depuis trop longtemps.
Vieille pie.
Vieillard stupide.
Vieux serpent à lunettes. Crapaud venimeux.
Messieurs, dames,
salope.
Un peu tenu, s'il vous plaît. Jouons ensemble à Bern to be alive. Notre célèbre quiz qui commence par une question non pas historique, mais géographique. La République de Moldavie est devenue indépendante de l'URSS il y a 30 ans, en 1991, l'année où on retrouvait Ötzi. Aujourd'hui pourtant, faisant office de frontière entre la Moldavie et la Roumanie, une forêt qui appartient à la Russie. Vrai ou faux ? Visualisez la carte.
C'est tout à fait possible, mais c'est vrai.
Parce que la forêt du... C'est pas du Mundat ou quelque chose comme ça, c'est une forêt qui est française, mais qui est de l'autre côté du Rhin. Et il y a un bac qui s'appelle le Rhénanus qui assure la continuité territoriale.
Comment s'appelle ce bac ?
Le Rhénanus.
Oui.
Chișinău.
Qu'est-ce que vous dites ? Vous m'insultez ?
Oui.
Non, c'est la capitale de la Moldavie.
Voilà. Ah. Donc est-ce que c'est dans l'ouest, à l'ouest de Chișinău, cette forêt ? Bien sûr.
Écoutez, je vais dire oui.
Vous dites oui.
Vous avez perdu.
Eh bien, la question était compliquée. Vous l'avez dit, très compliquée. Pourquoi l'ai-je posé ? Car il existe bien une frontière naturelle entre la Moldavie et la Roumanie, un affluent du Danube, une rivière appelée le Prut. Prutul, en roumain. Vous savez que Stéphane participe à des croisières, souvent, des croisières qui l'animent, hein, moyennant évidemment une cabine pas dégueu sur le bateau. Vous n'avez jamais
sur le Danube, oui.
Le croisière du Ponant sur le Prut.
Sur le Danube, non. Oui.
Sur le Danube.
Sur le Rhin, le Rhin, le Rhénanus. Et le Rhin, le Danube, oui.
Question numéro 2. Clémentine, c'est pour vous. On a beaucoup parlé d'anniversaire des 150 ans de la commune. Encore aujourd'hui, il est compliqué d'établir un bilan des massacres de cette période. On trouve des chiffres tels que 30 000 morts ou 6 500 selon les historiens. C'est quand même assez différent. Ce qui est certain, c'est que durant cette période, beaucoup de personnalités ont appelé à une répression sans pitié, notamment Émile Zola. Rares sont ceux qui ont souhaité un apaisement. On peut compter parmi eux Victor Hugo et George Sand. Vrai ou faux ?
Oui. Oui, sans doute, parce que Georges Sand et Hugo ne pouvaient qu'avoir un sentiment de sympathie et de compassion pour un mouvement populaire qui a suivi un siège et une guerre. Et en plus,
Il a signé et la demande d'amnistie pour Louise Michel, Victor Hugo.
Il était son ami, il lui envoyait de l'argent pendant des années quand elle était en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Ils ont beaucoup correspondu, donc la réponse est oui.
Vous avez perdu.
Beaucoup d'informations, une analyse qui, hélas, n'aboutit pas.
Allez-y, servez-nous votre explication tordue.
Ma question était, on peut compter parmi eux Victor Hugo et Georges Sand. Et vous m'avez fait un petit amalgame. Victor Hugo, oui.
Elle était déjà morte ?
Oui. Non. Victor Hugo a écrit « L'amnistie est la suprême extinction des colères ». Il a défendu une loi dans ce sens pour les communards. Mais Georges Sand, quand la répression a commencé, a écrit ceci, tenez-vous bien, « Ouf, mon mobilier est sauvé, les exécutions vont bon train, c'est justice et nécessité.
Bah, » Elle est devenue une vieille dame, qu'est-ce que vous voulez ?
Elle est devenue une vieille vic.
Elle s'est un peu ratatinée.
Elle s'est ratatinée,
Vous croyez ça ? C'était étrange. Hein ?
Stéphane, à mon avis, à sa moue, un petit peu embarrassée.
Je n'ai pas dirigé votre prout et voilà.
Oh non, Stéphane. Question numéro 3, c'est le moment de vous ressaisir, Stéphane. Et tous les deux d'ailleurs, parce que là, on est à zéro.
Oui, mais vous nous avez prévenu qu'on était les héros de la loose.
Oui, mais justement, il faut essayer de me faire mentir, Stéphane.
Oui.
Question numéro 3. Mikhail Sergeyevich Gorbatchev est resté à la tête de l'URSS entre 1985 et 1991, date où l'on a retrouvé Ötzi. Il restera comme un homme d'État réformateur, mais aussi comme une personnalité de premier plan de la Russie à avoir fait une pub pour Pizza Hut. Vrai ou faux ?
Ah oui, bien sûr.
Gorbatchev, une pub pour Pizza Hut.
Non, il a fait une pub, mais je ne sais plus pourquoi.
C'était pas pour McDo, plutôt, non ?
Je ne sais plus.
Vous répondez quoi à cette question, Stéphane ? Gorbatchev dans une pub Pizza Hut.
Non, écoutez, oui, je dirais oui.
Oh, il dirait oui, parce qu'il a su lire dans mon regard.
Gagné !
Heureusement que je suis là, quand même, pour vous sauver. Parfois, c'est vrai.
Ça n'a rien à voir avec votre
c'est
regard.
C'est vrai. Ah bon ?
Ah bah, votre regard est celui d'une vache suisse qui regarde passer...
une vache Milka ?
Oui,
le funiculaire.
Écoutez, c'est vrai. Gorbatchev a fait une pub pour Pizza Hut. Il a aussi fait une pub dans un genre assez différent pour Louis Vuitton. On écoute celle pour Pizza Hut.
C'est Gorbatchev.
Gorbatchev.
C'est de lui qu'on a nous в экономике бардак.
Да благодаря ему у нас новые возможности.
Это из-за него у нас политическая нестабильность.
Да благодаря ему у нас свобода.
C'est en quelle année?
Mais
on pourrait, on peut savoir de quelle année elle date.
Arrêtez-moi cette pub, je vais pas tout traduire. Vous avez compris, je ne fais pas l'insulte de traduire. Heureusement, Pizza Hut est arrivé. Avant, on était obligé de faire les pizzas nous-mêmes, etc. C'était Gorbatchev, c'était Pizza Hut, et je n'ai pas l'année exacte, mais effectivement, il a fait aussi Louis Vuitton.
C'est plus chic. Est-ce qu'il est au pouvoir ou est-ce que c'est bien longtemps? Est-ce que c'est dix ans plus tard?
C'est évidemment au moins dix ans plus tard. Effectivement, à l'époque, il pouvait pas faire.
Tu commençais à avoir besoin d'argent.
Et j'ai eu l'information, la pub de Gorbatchev date de 1997, pour votre information.
Donc c'est quelques années après.
C'est assez rapide. Ouais. Clémentine, si je vous dis Annie Legrand, notre imaginaire reste à l'arrêt. Mais si je vous dis Annie Dupéret, on voit des jambes sublimes mises en valeur par une bouche d'égout dans un éléphant, ça trompe énormément. Tout ça pour dire qu'un pseudo, ça compte. Napoléon l'avait bien compris, lui qui s'appelait Napoléonais Bonaparte. Vrai ou faux?
Bonaparte. Est-ce qu'en fait c'est lui qui a simplifié son nom, qu'il a écrit plus simplement pour qu'il soit plus facilement prononçable?
Moi je vous demande s'il s'appelait Bonaparte. Vrai ou faux?
Bonaparte. Non, c'est Bonaparte.
Vous avez gagné.
Je crois que nous tenons la question la plus con de toute l'histoire du quiz. Parce que, franchement, tout le monde sait qu'il s'appelle pas Bonaparte. Il s'appelle Bonaparte, comme vous l'avez dit. Deuxième fils d'une famille corse, on se moque de son accent à l'école. Ce qui peut expliquer les millions de morts des guerres napoléoniennes, une hypothèse. Napoléonais Bonaparte va devenir Napoléon Bonaparte alors qu'il était étudiant à Paris. Fan ou non de Napoléon, ne ratez pas son secret d'histoire sur France 3 ce soir en prime time. Présenté par l'empereur du PAF, l'Aiglon. Stéphane Bern.
L'Aiglon, c'est le fils de l'empereur.
Oui, je m'en fous. Question numéro 5 pour les deux, puisque nous sommes à égalité. En Chine, de 1958 à 1962, Mao décrète la campagne des quatre nuisibles. Pour une meilleure hygiène, le grand timonier a décrété qu'il fallait exterminer tous les rats, les mouches, les moustiques et les... quatre propositions. Il ne voulait pas éradiquer les quatre propositions, c'est moi qui vous donne quatre propositions. Les renards, les moineaux, les belettes, les dragons.
Les moineaux.
J'ai besoin d'une photo finish pour départager. Je sais, l'un a dit les moineux, l'autre a dit deux. La bonne réponse était les moineaux, pas deux.
Oh non.
C'est la décision. C'est la décision qui vient de tomber. Qui vient de tomber en régie.
On me dit la réponse n'était pas deux.
Il n'a pas demandé l'éradication des deux, il a demandé l'éradication des moineaux.
Oui, parce que c'est trop facile
moineaux.
De dire deux.
Voilà.
Moi, ça fait deux si la moineau.
La dernière fois, vous avez donné, pour aller plus vite, donner le numéro de la... Non.
Mais oui, mais ça, c'était la dernière fois.
Vous savez quoi, Stéphane? Si vous voulez être honnête, vous trouvez une autre question.
Une autre question.
Le match est...
Vous voulez une autre question?
Oui, je veux
une autre question. Vous la voulez vraiment?
Oui.
Est-ce que les auditeurs veulent une autre question?
Bien sûr. Oui, demande, regardez.
Vous avez exigé une ultime question. Oui. J'ai accédé à votre requête parce que je suis décidément gentil. Question, Stéphane va avoir un petit avantage puisque nous allons évoquer le métro parisien. On sait que Stéphane le prend souvent, toujours en première classe, évidemment. La dernière fois que vous l'avez pris, il y en avait encore. 19 juillet, c'est son inauguration par la compagnie des chemins de fer métropolitains. Combien y a-t-il de stations aujourd'hui? Pas de proposition. Le ou la plus proche remporte la manche. Combien de stations de métro à Paris aujourd'hui?
230
à ma gauche, 400 à ma droite. C'est Stéphane Bern qui l'emporte.
C'est pas 300 et quelques.
Ça c'est la bonne réponse, mais a posteriori. C'est 302 stations de métro aujourd'hui. Effectivement, vous n'êtes pas trop loin, Stéphane, 230. Vous en avez quelques-unes où vous n'êtes probablement jamais allé, évidemment.
Il y en a qui sont fermés au public.
16 lignes et 219 km de voies. Voilà, c'est donc Stéphane Bern qui réussit en imposant un peu dernière question.
Non, j'avais dit les moineaux, sinon.
Vous aviez dit deux. Ce n'est pas un animal, Stéphane. Deux.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur de la seule émission d'histoire qui peut réunir un cadavre congelé, une figure de la mafia et Vladimir Poutine. Stéphane, tout de suite, vous avez deviné notre thème du jour.
Les tueurs à gages.
Bon, malheureux, non, Stéphane, les hommes de glace de l'histoire. Stéphane,
ah oui, autant pour moi.
Oui, oui.
Après Ötzi, cet alpiniste retrouvé dans la glace 53 siècles après sa mort, je vais vous raconter l'histoire d'un homme de glace au sens figuré, Richard Kuklinski, dit Iceman, un tueur à gages au sang froid effarant qui congelait ses victimes. Rien à voir donc avec notre troisième personnage du jour, Mathieu, qui lui est le sympathique et chaleureux Vladimir Poutine.
Éminemment chaleureux. Voilà Stéphane, comme vous dites, rien à voir. Ses détracteurs le surnomment aussi l'homme de glace, mais Vladi, c'est comme ça que je l'appelle quand on chasse le yak dans sa datcha, est en fait une crème. Stéphane le sait, lui qui connaît si bien la Russie.
C'est très joli Helsinki.
Bien. Sinon, il y a aussi nos chroniqueurs hein, qui sont là et qui sont compétents.
Alors avec nous, des chroniqueurs très brillants.
Ouais,
David Cassel-Lopez qui nous raconte les origines du permis de conduire.
Oui, tout à fait.
Et alors qu'il ne l'a toujours pas lui-même.
Non, je n'ai pas moi-même.
Il veut vérifier d'où ça vient pour savoir s'il y va.
L'omelette norvégienne, voilà un dessert alléchant, Olivier.
Oui, mais j'avoue que ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Et préparer cette chronique m'a donné envie d'en faire.
Oui.
C'est un dessert qui peut-être un peu passé de mode, je sais pas.
Je trouve. Qui reviendra.
Oui, vous savez, c'est ces desserts aussi qu'on est obligé de mettre un peu en scène et de théâtraliser.
Flambé.
Vous allez voir qu'il y a derrière l'invention de cette recette une histoire absolument fantastique.
Ah oui.
Quand j'ai signé le contrat pour cette émission, j'étais plutôt content de l'offre salariale qui m'était faite. Puis quand j'ai découvert combien prenait Stéphane, je me suis dit, je me suis fait pigeonner. D'où vient l'expression se faire pigeonner, Stéphane?
C'est vous qui m'avez donné l'idée. Alors, d'où ça vient? Je vais vous le raconter.
Et tout de suite, enfilons nos gilets pare-balles pour affronter notre deuxième personnage du jour. On va en avoir besoin. Stéphane Bern nous raconte Richard Kuklinski, dit Iceman.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il y a quelques millénaires d'écart entre Ötzi, dont on a parlé tout à l'heure, et Richard Kuklinski, un citoyen américain qui n'avait pas grand-chose de recommandable. Mais il n'y a pas que le temps qui les sépare, il y a aussi la taille. Ötzi faisait 40 kilos tout mouillé, alors que Richard Kuklinski était ce qu'on appelle un beau bébé. 1m98, 130 kilos de muscles et un certain don pour l'extrême violence. À sa décharge, Richard Kuklinski n'a jamais connu autre chose que la violence. Il naît en 1935, dans le New Jersey, d'un père polonais et d'une mère irlandaise. Côté face, le couple est catholique. Le petit Richard grandit à l'ombre de l'église du quartier, dont il est l'un des enfants de cœur. Mais côté pile, on ne fait pas plus sordide. Alcooliques tous les deux, ses parents passent le plus clair de leur temps à cogner sur leurs enfants. Au milieu des années 60, Richard semble avoir laissé son passé derrière lui. En apparence, sa vie est tout à fait ordinaire. Il travaille à Manhattan dans un studio spécialisé dans le développement de films et de pellicules. Et apparemment, cela paye bien. Richard est marié à Barbara, une belle femme brune et élégante. Le couple vit dans une belle maison de deux étages au 169 Sunset Street, un quartier huppé de Dumont, une petite ville du New Jersey. Richard et Barbara ont trois enfants, dont deux petites filles splendides. Bref, de l'extérieur, c'est la famille américaine idéale. Le genre qui va faire du cheval le week-end et qui prend des leçons de piano. Mais ça, Mathieu, c'est la surface.
Oui, j'imagine.
Barbara, elle, sent bien que son mari cache quelque chose. Il y a le good Richie et le bad Richie. Le premier, c'est le mari aimant, un vrai papa gâteau avec ses deux grandes filles. Et puis, il y a le méchant Richie, celui qui surgit sans crier gare, celui qui a le visage figé, le regard mort et des colères froides et brutales. Ce Richard-là, c'est le genre à sortir de sa voiture pour massacrer devant toute sa famille un conducteur qui lui a coupé la route avant de reprendre le volant, comme si de ne rien n'était. Mais Barbara est sous emprise. Elle ferme les yeux et tant pis si elle ne sait pas vraiment d'où vient l'argent du couple. Mais nous, désormais, on le sait. Il vient du crime. Depuis des années, le studio de Kuklinski lui sert surtout de couverture. Son laboratoire, c'est l'endroit rêvé pour se lancer dans le trafic à grande échelle de films pirates. Ce qui lui rapporte des sommes considérables, grâce aux films grand public déjà, mais surtout grâce aux copies de films classés X qui se vendent très bien sur le marché noir. Au début des années 80, Kuklinski est plus ou moins le patron d'un vrai petit gang qui opère dans le trafic de vidéos, mais aussi dans le cambriolage, l'arnaque, les petits services à la mafia locale ou le trafic de drogue, jusqu'au jour où tout s'enraye. Pour l'argent d'abord, pour se protéger de ceux qui seraient tentés de parler ensuite, Kuklinski tue 5 personnes en 18 mois, clients et complices confondus. George Malibrand, Paul Hoffman, Gary Smith, Daniel Deppner, qui l'avait aidé à tuer Gary Smith, et Louis Masguet, tué d'une balle dans la nuque. C'est ce dernier crime qui va rendre Kuklinski célèbre, parce que il y a un petit détail glaçant, c'est le cas de le dire. Lorsque la police retrouve ce corps en parfait état, le 25 septembre 1983, elle croit d'abord que l'homme a été tué la veille. Mais deux choses alertent les autorités. D'abord, les vêtements de la victime. Louis Masguet a été porté disparu par sa famille 2 ans plus tôt, en juillet 1981. Or, il porte exactement les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. Et plus étrange encore, le médecin légiste repère quelque chose à l'autopsie. Des cristaux de glace à l'intérieur du corps. Certains tissus sont gelés alors qu'on est à peine en septembre. C'est passé très près et Kuklinski a bien failli réussir son coup, mais les enquêteurs comprennent que Louise Masguet est mort depuis un bon moment et donc que son meurtrier a congelé puis décongelé son corps. Les policiers trouvent alors un nom à ce mystérieux tueur qui congèle ses victimes pour passer entre les mailles du filet, Iceman. L'homme de glace fait la une de tous les journaux locaux qui reprennent son surnom. Pour en savoir plus, il va falloir attendre l'arrestation de Kuklinski 4 ans plus tard, en 1986. Piégé par un agent infiltré, Richard Kuklinski a été mis sur écoute et s'est vanté de plusieurs crimes. Interrogé, il avoue les 5 meurtres et explique comment il en est venu à congeler les corps pour égarer les policiers grâce à un vieux complice, Robert Prunge. C'est cet homme qui a eu cette idée lorsqu'une femme l'avait engagé pour tuer son mari et toucher l'assurance vie. Afin que l'opération réussisse, il fallait que tout le monde croie que l'homme était mort bien après la date de sa disparition, le temps pour la veuve de réclamer l'argent. Richard Kuklinski n'a fait que reprendre ce stratagème en plaçant le corps de Louis Masguet dans un puits glacé sous un de ses garages dans le New Jersey. Et il l'a laissé là 2 ans avant de devoir le déplacer pour démolir le bâtiment. Si la carrière de criminel de Kuklinski est terminée, il va en commencer une autre depuis le fond de sa prison où il est incarcéré désormais tel que les juges l'ont décidé pour le restant de sa vie, celle de star des médias. Richard accorde entretien sur entretien à des criminologues, des psychiatres et surtout beaucoup, mais alors beaucoup de journalistes comme ceux de HBO qui diffusent au milieu des années 2000 plusieurs documentaires, les Iceman Tapes. Et là, il devient très difficile de démêler la réalité de la fiction. Ce qui est certain, c'est que Richard Kuklinski a frayé avec toute une bande de gens pas très recommandables au cours de sa carrière. Ce qui est moins crédible, c'est le personnage qu'il s'invente. Reportage après reportage, Richard affirme qu'il a été l'un des tueurs à gages les plus efficaces de la mafia new-yorkaise et se vante d'avoir tué plus de 200 personnes par tous les moyens, au pic à glace, au revolver, avec du cyanure, des grenades et même une arbalète. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il était le tueur parfait, professionnel et glacé, le genre qui peut filmer ses victimes en train de se faire dévorer vivant par des rats pour ramener la vidéo à ses commanditaires. Kuklinski prétend même au passage que c'est lui qui a tué Jimmy Hoffa, le tout-puissant patron du syndicat des camionneurs, mystérieusement disparu en 1975 et jamais retrouvé. Soyons clairs, Mathieu, personne chez les enquêteurs ne croit vraiment à ces affirmations, alors qu'ils ont évidemment creusé à chaque fois. Richard Kuklinski, dit Iceman, est bel et bien un tueur à sang-froid, et il a probablement quelques crimes oubliés à son actif. Mais pour savoir s'il est le tueur à gages hors du commun qu'il a prétendu être jusqu'à sa mort en 2006, là, c'est une autre paire de manches.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Richard Kuklinski, nous sommes avec l'auteur Émilie Tibatz, spécialiste des tueurs en série. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Bonjour Émilie Tibatz, vous êtes la créatrice du site tueurensérie.org et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur la question, dont UK Serial Killers, le livre noir des tueurs en série britanniques paru aux éditions Ring. Vous qui avez approché par vos recherches bon nombre de tueurs en série, que dire du cas glaçant de Richard Kuklinski? C'est un ovni dans la, comment dire,
cette galaxie.
Dans cette galaxie, je cherchais le mot.
Mais je suis là pour vous, Stéphane.
Oui. Oui, alors ce qui a effectivement de très surprenant avec Kuklinski, il avait un casier judiciaire vierge. Alors que la grande majorité des tueurs en série a formé une multirécidiviste, la seule fois où il a été arrêté, c'est parce qu'il avait fait un chèque en blanc. Et encore, les charges ont été abandonnées parce qu'il a accepté de rembourser l'argent.
Donc il était bon quelque part, il était malin, quoi. Il était rusé.
C'est surtout que il n'a pas tué autant que ce que...
Ah oui, donc il n'a pas tué les 200 qui prétendaient avoir tué.
Non, non, non. À mon avis, il n'a pas fait beaucoup plus que les 5 victimes de meurtre dont il a été reconnu coupable. Et après son décès, le procureur général du New Jersey a déclaré qu'il avait fait des enquêtes sur toutes les meurtres dont Kuklinski s'était vanté. Tout avait été examiné, tout était faux.
Pourquoi avoir gonflé le chiffre ? Alors, il avait ce côté aussi mégalomane. Il voulait que ça sache et quitte à même gonfler le chiffre pour passer pour le plus grand serial killer de toute l'histoire.
Ah oui, oui. Ce qui s'est passé, c'est que Richard Kuklinski, c'était quelqu'un de particulièrement narcissique, arrogant. Mmh. Et une fois en prison, il a eu besoin d'attirer l'attention. Donc, il s'est inventé ce personnage de tueur à gages très prolifique. Alors, au début, il a dit qu'il avait fait 30 victimes, puis après 100, et puis 200, des pointures de la mafia new-yorkaise. Si on l'écoutait, c'était lui qui avait tué Kennedy. Et en fait, selon l'époque et l'interlocuteur qu'il avait en face de lui, ses histoires ont changé.
Moi, ce que j'aime bien, j'aimerais revenir sur la méthode.
Vous me faites peur, Stéphane.
Oui, non, mais sur le fait
que vous
de,
aimez bien.
De congeler.
parce que ne me regardez pas comme
non,
ça.
Non, c'est vrai que ça permet de figer le temps et donc d'échapper aux policiers. C'est une technique habile, au fond. Ça brouille les pistes, évidemment. On ne sait pas quand les gens sont morts.
Tout à fait, mais est-ce que vous avez déjà essayé de congeler quelqu'un, Stéphane ?
Non, malheureusement. Ça s'est pas présenté.
Parce que c'est pas si simple, en fait. Il faut avoir accès à un grand congélateur, une chambre froide ou un puits, hein, comme Kuklinski. Il faut s'assurer que personne n'y rachète un œil pour pas se faire avoir. Et ensuite, il faut attendre très patiemment ce que n'a pas fait Kuklinski, que le corps décongèle, et ensuite pouvoir le transporter ailleurs pour l'abandonner. Et en fait, si vous enterrez un corps dans la nature et que vous le laissez se décomposer, finalement, c'est plus efficace pour faire disparaître des preuves. Parce que dans le cas de Louise Masgay, la victime qui avait donc été congelée par Kuklinski, le fait de l'avoir congelée, au contraire, ça a préservé les preuves. Le médecin légiste, il a pu retrouver le contenu de l'estomac de Masgay et conclure qu'il avait mangé un hamburger empoisonné au cyanure.
Le cas Kuklinski est aussi unique parce que c'était quelqu'un qui connaissait souvent ses victimes, et qui était parfois ses collègues. Ça en fait quelqu'un d'autant plus monstrueux ou pervers ?
Je trouve que oui, parce qu'il a tué effectivement uniquement des personnes qu'il connaissait, dont deux qui pensaient être ses amis, qui lui faisaient confiance. Et le plus monstrueux dans l'histoire, c'est qu'il a empoisonné ses deux amis avec du cyanure. C'est une mort lente, douloureuse, absolument affreuse. Et en plus, comme ça n'allait pas assez vite pour lui, il les a étranglés.
Mais... il faisait ça pourquoi ? Pour l'argent ? C'est un motif classique ou il y avait autre chose ? Ou parce qu'il avait cette violence rentrée en lui ?
C'est un peu des deux. En fait, Kuklinski, il a d'abord tué pour l'argent et ensuite pour faire disparaître des témoins gênants, on va dire. Mais la vérité, c'est qu'il tuait froidement pour obtenir ce qu'il voulait. Il voulait de l'argent et du pouvoir.
Donc en fait, il a pris aucun plaisir.
Je pense pas qu'il ait éprouvé du plaisir à tuer. Par contre, il a adoré être le centre de l'attention face aux journalistes et aux psychologues en prison. Il s'est cru très intelligent, très supérieur. Il s'est beaucoup amusé avec ça.
Il y a quelque chose chez lui qui peut sembler un peu paradoxal, puisque d'un côté, il congèle ses victimes, il les fait disparaître, et de l'autre, il exhibe ses crimes et il cherche à devenir une star médiatique. Comment vous expliquez ça ? C'était un vrai dingue ou au contraire, vous pensez qu'il avait sa logique à lui, toute perverse soit-elle ?
Ah, je pense qu'il n'était pas dingue du tout. Il n'entendait pas de voix, il n'avait pas d'hallucination. C'était un psychopathe, en fait, tout simplement. La psychopathie, c'est pas une maladie mentale. C'est quelqu'un qui était très froid, égocentrique, qui se préoccupait que de sa petite personne, qui avait aucune empathie.
Mais pourtant,
c'est vraiment bien son surnom.
Pardon, mais il y avait quand même sa femme, ses enfants, avec qui il était tellement adorable. Hein, vraiment le mari parfait, le père adorable. Donc il y avait face A et face B. Il y avait une duplicité, une dualité.
Alors, c'est un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On retrouve ça beaucoup plus fréquemment qu'on le pense chez les tueurs en série. Et Kuklinski, en fait, il n'était pas si gentil que ça. C'était effectivement, il pouvait être un mari aimant, un père de famille adorable. Mais il lui arrivait de battre violemment son épouse et d'être psychologiquement violent avec ses enfants. Un jour, il a tué le chien d'une de ses filles simplement parce qu'elle était rentrée à la maison plus tard que ce qu'il lui avait demandé.
Ah oui, ça c'est pas gentil, tu as un chien Stéphane, je vous sens un peu bouleversé. C'est l'info de trop, hein, autant 200 personnes.
Oui, parce que vous voyez, bon, chien, la mort de Louis Masgay...
vous ne le connaissiez pas, donc.
Mais un chien... Mais pardon, mais sa femme n'a rien vu venir. On ne sait jamais vraiment avec qui on vit, mais tout de même, Émilie Tibatz, parlons franchement. Sa femme ne s'est jamais rendu compte de rien jusqu'au moment où le policier infiltré l'a arrêté.
Alors, elle a rien voulu voir, on va plutôt dire. Elle se doutait bien que son mari n'avait pas un travail classique et que pourtant l'argent rentrait à la maison, lui offrait des manteaux en vison, ils avaient toujours de belles voitures, de choses comme ça. Elle savait que c'était un criminel qui était au minimum un cambrioleur, un délinquant. Par contre, le fait qu'il tuait des gens, Je pense qu'elle ne le savait pas.
Bah écoutez, c'est incroyable. Mais en tout cas, on a appris plein de choses grâce à vous. Merci beaucoup, Émilie Tibatz. Je rappelle le titre de votre dernier livre, UK Serial Killers, le livre noir des tueurs en série britanniques, paru aux éditions Ring. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les hommes de glace de l'histoire. Je viens d'évoquer Richard Kuklinski, un impitoyable tueur à gages qu'on surnommait Iceman, l'homme de glace. J'ai pu en parler sans crainte de représailles, sachant qu'il est mort et les choses s'annoncent un peu plus compliquées pour vous, Mathieu, parce que vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un homme de glace bien vivant, très puissant, le redoutable, et quel bras long, hein, président russe Vladimir Poutine.
Écoutez, redoutable, c'est vous qui le dites, Stéphane. Hein. De même que c'est vous qui venez de dresser une comparaison plus que douteuse, je dirais choquante, entre un responsable politique démocratiquement élu, je vous le rappelle, et un tueur à gages. Faudra pas venir pleurer si demain au petit-déj, vous trouvez que votre thé a un drôle de goût.
Il y a une drôle d'odeur, vous trouvez pas?
Oui, c'est un Russian Earl Grey, saveur Novichok.
Ah,
non, en étroite collaboration avec les snipers, les attachés d'ambassade du consulat de Russie à Paris, hyper sympa d'ailleurs, je vais m'employer cet après-midi à redorer un peu l'image faussée que vous autres... Je dois vraiment lire ça?
Non.
Oui, alors oui, l'image faussée que vous autres, connards occidentaux, avez de Vladimir Poutine. Un portrait qui devrait nous permettre de nous faire une idée plus juste de celui qui dirige la Russie avec maestria depuis 21 ans maintenant, et de déconstruire les allégations mensongères souvent colportées à son sujet, notamment par des gens peu recommandables comme Alexei Navalny, qui n'est pas du tout au goulag mais à Center Parks, ou encore les Pussy Riots.
Connasse.
Comme vous dites, Stéphane. C'est bien, Stéphane. Ochine Khalasho, le Novichok s'éloigne. Car aujourd'hui, les grincheux nous disent droits de l'homme, les grincheux nous disent droit international. Que cherche-t-il, hein? À gâcher la fête? Alors qu'une merveilleuse révision constitutionnelle, pas du tout téléguidée par le Kremlin, vient d'autoriser Poutine à diriger le pays jusqu'en 2036. En 2036, on dirait qu'il y a vraiment des gens qui n'ont que ça à faire de critiquer.
Oui, c'est vrai.
Toujours les copains de Navalny qui ont cru malin, au lendemain de l'abrogation de la loi, de publier sur les réseaux sociaux une vidéo datant des années 2000 sur laquelle on peut voir Vladimir Poutine déclarer sa ferme opposition à ce qu'un président puisse rester au pouvoir plus de deux mandats. Ouais, peut-être, mais il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, hein. De toute manière, les soutiens de Navalny, hein, franchement. Souvenez-vous de la vidéo du soi-disant palais de Poutine. Quel crédit voulez-vous accorder à des gens qui ont cru faire un coup médiatique dénonçant l'opulence dans laquelle vivait le président en diffusant des images d'une pauvre bicoque qui faisait même pas le tiers de la maison de campagne de Stéphane à Tiron-Gardet. Tout ça n'est pas sérieux, contrairement à Vladimir Poutine. Vladimir Vladimirovitch Poutine voit le jour à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, le 7 octobre 1952. Sa naissance est précédée de la mort de ses deux frères, Victor et Albert, nés au milieu des années 30. Selon Alexei Navalny, c'est Vladimir lui-même qui, encore à l'état de spermatozoïde, aurait réussi à commanditer, depuis le testicule paternel, l'assassinat de ses deux frères. Vladou, c'est comme ça que l'appelle sa babouchka, grandit dans un appartement communautaire. Oui, pour rappel, à l'époque communiste, le gouvernement avait décidé que les citoyens devaient vivre ensemble et avait donc réquisitionné tous les appartements privés pour les réaménager en appartements d'État dans lesquels sont entassés autant de foyers qu'il y a de chambres. Les colocataires communistes, les co-colocataires, comme les appellent les historiens, se partagent donc la cuisine et les sanitaires. Son cursus est un sans faute, un garçon tonique et sportif. Vladou décroche sa ceinture noire en judo et un diplôme en droit à l'université d'État de Leningrad. Si vous vous demandez d'où lui vient cette passion pour la justice et ce respect du droit qui l'anime dans toutes ses décisions, et bien de là. Et aussi un peu, il faut le dire, de ses années au KGB. Une agence de renseignement souvent caricaturée comme omnipotente et brutale, alors que si vous parliez russe comme moi, vous sauriez que les initiales KGB signifient Comité pour générer le bonheur. Voilà. Or, ce qui anime Vladou depuis toujours, c'est ça, rendre les gens heureux. Il va enfin pouvoir concrétiser son rêve en devenant officier de renseignement au gentil KGB. Pendant près de 15 ans, jusqu'en 1990, il sera posté en Allemagne de l'Est, où il se fera passer pour un interprète. Jamais en 15 ans, il ne grillera sa couverture. Il faut dire que les méthodes de recrutement du KGB à l'époque étaient draconiennes. À son entretien, son chef lui avait dit...
Quand par exemple, vous voulez parler allemand, faut savoir parler allemand.
Ça déconne pas au KGB, c'était sérieux. En 90, Vladimir quitte l'Allemagne. Vous pouvez facilement deviner pourquoi, Stéphane?
Il n'aimait pas les saucisses bavaroises.
Non, c'est l'heure de prendre la retraite pour les agents de terrain du KGB qu'il quitte avec le grade de lieutenant-colonel. Il rentre en Russie avec à cœur l'envie de transmettre. Il devient vice-recteur de l'université d'État de Leningrad. Mais voilà, un autre destin l'attend, un destin politique. Oui, c'est la politique en Russie. Il commence discrètement en tant que conseiller d'Anatoli Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg, qui avait été son prof 20 ans plus tôt, une belle histoire. Il devient maire adjoint, mais pas longtemps, car Sobchak tombe pour corruption. Pas de problème pour Vladou qui sait rebondir. 1998, direction Moscou. En ces temps troubles, il arrive à se faire nommer directeur adjoint de l'administration présidentielle de Boris Yeltsin. Vous vous souvenez de Boris Yeltsin ?
Complètement bourré.
Voilà. Moi, perso, je me souviens surtout de sa petite fille, mais c'est une autre histoire. Un voyage scolaire en classe de 4e, un lit trop étroit. Le pire, c'est que c'est pas le 1% faux. Pendant que je fricote avec Ekaterina Yeltsin, Vladou, lui, continue d'intriguer. Il devient chef du service fédéral de sécurité, une branche de l'ancien KGB. Bref, le coquinou étend sa toile. Un an plus tard, à la faveur d'un remaniement gouvernemental, il devient premier ministre. Ça y est, Vladou est dans la place et rapidement, sa cote de popularité explose suite à une opération militaire musclée qu'il lance en Tchétchénie contre des rebelles sécessionnistes. Opération de représailles car les Tchétchènes sont accusés d'être responsables d'une vague d'attentats assez terrible dans le pays. En tout cas, ça marche sur l'opinion publique qui s'entiche de Vladou et le porte au pouvoir lors des élections de mars 2000. Ses promesses, lutter contre la corruption et démanteler gentiment l'économie réglementée. Le bonheur et la prospérité ruissellent alors sur la Russie comme le runard sur les convives d'un dîner clandestin chez Stéphane Bern. Tout irait vraiment pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ces petites tracasseries administratives, ces carabistous illégales qui empêchent notre bon Vladou d'enchaîner 3 mandats de suite. C'est vraiment trop con. On est si bien avec Poutine au Kremlin, s'exclame Roman Abramovitch sur son yacht de 70 mètres. Oui, mais quand même, si je peux me permettre... déclare le moujik de l'Oural, visiblement aigri d'avoir moins bien géré le passage à l'économie de marché que les oligarques, l'aigreur. Voilà ce qui pourrait faire du tort à Vladimir, qui trouve rapidement une combine discrète pour rester aux commandes malgré la loi sur les 2 mandats, mettre un pote à lui président pendant que lui reste Premier ministre avant de redevenir président le coup d'après. Bien joué Vladou, les 4 mandats à la suite. À la question « À qui appartient la péninsule ukrainienne de Crimée ?» tu as répondu « La Russie », c'est une bonne réponse. Tout réussit à Vladou, qui comptabilise donc aujourd'hui déjà 21 ans à la tête de la Russie, 21 ans. Dans 3 ans, il aura fait aussi bien que Staline. Et grâce à la judicieuse réforme qui vient de passer à la Douma, Poutine pourra donc être président à l'âge de 83 ans, ce qui n'a rien d'impossible pour un type aussi en forme que Vladimir Poutine. Et la Russie, Stéphane, c'est tout simplement une autre culture. D'où le malheureux quiproquo qui divise la communauté internationale depuis des années, certains étant tentés de voir dans un type qui monopolise le pouvoir depuis plus de 20 ans une forme de dictature. Tout de suite, les grands mots. Non, Vladou, c'est juste un dirigeant aux méthodes pragmatiques. D'autres leaders avant lui ont eu ce problème de perception du grand public, comme ce grand ami de Stéphane, qui a dirigé à une époque l'Italie.
Il a été très décrié, Benito.
A tordo, évidemment. Non, Poutine, c'est pas un dictateur, loin s'en faut. Il a simplement mis un peu d'ordre dans un pays qui en avait grand besoin. Tout est plus clair, plus simple, maintenant plus transparent en Russie. Si tu émets une critique du gouvernement, en prison. Loi sur l'opposition. Tu es une ONG ? Ah, tu peux être une ONG, mais ça va te coûter cher d'exister. Loi sur les associations. Tu es gay ? Ça va encore plus vite. Loi qui criminalise toutes les actions publiques menées par la communauté LGBT. Tu défends les droits de l'homme ? Non, ne défends pas les droits de l'homme, c'est mieux. Homme du passé sur le plan des mœurs, homme de son temps sur le plan des nouvelles technologies, je ne reviendrai pas ici sur la ridicule rumeur voulant que Poutine serait intervenu dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Ah non, alors pipo russe, s'il vous plaît, russe. Un très vilain rapport des services de renseignement publié en 2017 croit pouvoir affirmer que Poutine lui-même aurait ordonné une campagne destinée à fausser la perception que les internautes avaient d'Hillary Clinton, améliorant ainsi les chances de son gros poteau Donald Trump. Oh, ce que les gens n'auraient pas imaginé parfois quand même, c'est n'importe quoi. Côté vie privée... Ah, pardon, nos amis du consulat me signalent qu'on n'a plus le temps d'aborder la vie privée du président Poutine. C'est dommage, parce que d'après un ami bien informé, Poutine, dans sa jeunesse, c'était un garçon...
Qui en avait une grosse, paraît-il.
Et non, un sacré Don Juan, Stéphane, un sacré Don Juan. Bref, longue vie au plus démocrate des présidents du G8, dont les détracteurs prétendent que non content de confisquer le pouvoir, il aurait également profité de ses 20 ans justement au pouvoir pour se faire des couilles en or, zolotne et chari, baliverne de gens foutre. Une fois de plus, selon le Kremlin, le président gagne seulement 112 000 dollars par an, point barre. Bon, la CIA estime plutôt sa fortune entre 70 et 200 milliards de dollars. Mais peut-on faire confiance à la CIA, Stéphane ?
Connasse.
Voilà, Stéphane, c'est très bien. Ochen Khalasho, l'attaché du consulat, me signale que si vous voulez tourner un secret d'histoire à Moscou, c'est quand vous voulez, Stéphane.
Merci, Mathieu.
On vous recevra avec un tapis rouge.
Ah, bah écoutez, oui. C'était 99% vrai. Bon, il y a donc 1% de choses un peu...
Non, tout est vrai. Tout est vrai. C'est ouais. Vraiment un très bon président pour la Russie. Ouais, il a fait beaucoup de choses très bien.
Ouais. Et les Russes le plébiscitent.
Les Russes le plébiscitent toujours.
Ouais,
et...
pas, ou deux.
Oui, mais et puis l'opposition n'est pas muselée du tout. Donc c'est un soutien total et qui est tout à fait légitime.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire, mais qui sait aussi remonter aux origines de notre quotidien. Chaque jour, l'histoire d'un objet ou d'une invention. Aujourd'hui, David, l'invention du permis de conduire.
Oui, le permis de conduire, c'est un des rituels de l'entrée dans l'âge adulte, hein, comme passer son bac ou voter ou faire l'amour avec plusieurs personnes à la fois.
Et j'ai raté ce passage-là, moi.
Et c'est pour ça que le permis de conduire, c'est un sujet délicat pour moi, vous le disiez, parce que je ne l'ai pas. Et que donc, dans une certaine mesure, je ne suis pas encore un adulte, à mes propres yeux et aux yeux des autres. Et pourtant, je me suis inscrit pour la première fois au permis de conduire en septembre 1999, puis une seconde fois en 2007, et j'ai échoué. Et c'est complètement honteux parce que j'ai pas échoué à l'examen du permis, j'ai échoué à l'examen du code.
Vous n'êtes même pas allé jusqu'au...
Deux fois.
Vous n'êtes même pas allé jusqu'à la pratique.
7 fautes au lieu de 5 la première fois, 6 fautes au lieu de 5 la deuxième fois. Et donc je rêve parfois que je vis à une autre époque, l'époque où on n'avait pas besoin de permis de conduire pour conduire une automobile, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'automobile. Les premières automobiles modernes qui marchaient à l'essence, elles datent des années 1880. Et il y a un monsieur qu'on crédite généralement plus que les autres pour leur invention, c'est Carl Benz, qui a donné son nom à cette Benz dans laquelle tant de gens depuis ont zoom zoom zen. Carl Benz, en 1885, il a sorti sa première voiture et il a commencé à l'utiliser tout seul dans les rues de Mannheim, en Allemagne. Et visiblement, sa voiture, qui ressemblait à une sorte de gros tricycle, elle sentait mauvais et elle faisait du bruit. Et Carl, il se prenait des remarques désagréables de la plupart des passants. Alors un jour, il en a eu marre et il est allé voir les autorités de la région pour qu'elles lui fassent un papier qui l'autorise officiellement à circuler avec son engin. Ce papier, il existe toujours et c'est considéré comme le premier permis de conduire au monde. Permis de conduire au sens strict, puisque c'était juste un papier qui lui permettait de conduire. Il n'y avait pas d'examen de conduite. Et on voit mal ce qu'ils auraient pu examiner, vu que c'était la seule personne qui avait une voiture sur la Terre. Et c'est resté comme ça pendant un bon moment dans tous les pays où l'automobile est apparu. Et puis, petit à petit, il y a commencé à y avoir des accidents et des morts. Et donc, on s'est dit que ce serait bien de faire passer un test aux gens qui voulaient conduire des voitures. Et d'après ce que j'ai pu trouver, la première fois que c'est arrivé en France, c'était en août 1893. Il y avait 1700 voitures en France à ce moment-là. Et on a instauré ce qu'on appelait le certificat de capacité, qui était une sorte de permis de conduire délivré après un examen dont je n'ai trouvé qu'une description dont j'ai pas la certitude qu'elle soit juste, vu la source, qui n'était pas ni Le Monde, ni, ni un site particulièrement sérieux. Apparemment, il fallait juste savoir démarrer, s'arrêter et tourner. Voilà. Et si c'est vrai, comme permis de conduire, ça va. Même moi, je pense que je pourrais l'avoir. Dans les années 10, il y a eu un mouvement contre l'existence du certificat de capacité, avec un argument libertarien, on pourrait dire, qui disait chacun doit être responsable. C'est pas à l'État de dire qui est bien en voiture ou pas. S'il y a des gens qui conduisent mal et qui ont des accidents, c'est leur responsabilité, ils seront jugés par un tribunal. En fait, comme dans toutes les autres situations de la vie, si vous courez comme un dératé dans la rue et que vous shootez par inadvertance dans un bébé, vous serez jugé, vous n'avez pas besoin de permis de marcher, vous voyez. Et ben, malheureusement, l'argument n'a pas pris, hein, malheureusement pour moi. Et
vous essayez, on sent que vous essayez de sortir tous les arguments en votre faveur pour la suspension du permis de conduire.
Et donc, depuis, l'histoire du permis de conduire en France, comme ailleurs d'ailleurs, c'est l'histoire d'un durcissement. Si vous voulez, Mathieu, je vais le répéter, comme ça vous pouvez isoler ce morceau de phrase pour en faire un truc
s'il vous plaît, oui, c'est très bon.
C'est l'histoire d'un durcissement. Voilà, ok, c'est bon.
Très bien, je l'ai.
En 1927, en France, on instaure le retrait de permis. En 1954, c'est l'apparition des catégories, A, B, C, etc. En 1992, le permis à points. Les permis probatoires pour les jeunes conducteurs en 2002. Enfin, les jeunes, ceux qui viennent d'avoir leur permis, quoi. Quant à moi, en février 2020, je me suis inscrit une nouvelle fois au permis de conduire pour la troisième fois. J'ai passé l'examen du code de la route un matin dans un bureau de poste et je l'ai eu. Et j'ai été fier. Oui. 20 ans après ma première tentative, et j'étais fier comme rarement j'ai été fier. Bon, après, j'ai commencé les cours de conduite, et la vérité, c'est que j'ai eu de la flemme de continuer.
Mais donc, non, mais c'est trop
cool. Mais oui, mais je sais pas, c'est compliqué. J'ai pris le permis automatique, et même ça, je pensais que ce serait facile parce qu'il n'y avait pas le levier de vitesse, mais juste faire. Il y a trop de choses qui se passent devant ses yeux en voiture.
Quelqu'un d'aussi intelligent que vous, d'aussi vif.
Mais les gens qui traversent dans tous les sens, et moi, je suis sûr que je tuerais tout le monde.
J'ai un truc pour vous motiver.
Ouais.
Mathieu m'a dit que si vous aviez le permis avant la fin de la saison, il vous prêtait sa Porsche pour un week-end.
C'était la fin de ma chronique.
D'autant que j'ai une Mégane, comme chacun sait, et donc, mais je vous prêterai volontiers la Mégane.
Utilisez la Mégane et prêtez-lui la Porsche.
Depuis toujours, de toute façon, moi j'ai été conduit par tout le monde, donc c'est je bien vous propose agréable. De me conduire dans votre Porsche.
Mais moi je ne supporte pas d'être conduit.
Dans ma propre voiture.
Quand vient l'heure des vacances, comment faites-vous? Vous n'aimez pas, quand vous êtes dans un lieu pour visiter la campagne, vous êtes obligé de compter sur la bonne volonté d'un ami qui aura peut-être autre chose à faire pour vous emmener visiter.
Tout à fait, ou alors de payer des taxis hors de prix. Voilà, c'est ça.
En fait, vous êtes en dépendance.
Je suis...
ne l'accablons
une personne
pas,
dépendante.
Ne, ne l'accablons pas, je crois qu'il psychologiquement, il est déjà assez
mal. Vous êtes une merde. Non, si on peut, si, entre nous.
N'allez pas plus loin dans votre raisonnement, Stéphane. L'excellente chronique de David.
On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Une bonne omelette norvégienne, ça vous tente?
Ah oui.
Olivier Pouls est avec nous. Chaque jour, l'histoire d'un plat, d'une recette. Aujourd'hui, l'omelette norvégienne.
Oui, un dessert que je n'ai pas mangé depuis bien longtemps. Je vais peut-être y remédier parce que ça m'a donné très envie. Alors, détrompez-vous, il n'y a strictement aucun rapport entre l'omelette norvégienne et le pays, la Norvège. Alors, je vais vous dire dans un instant pourquoi l'omelette norvégienne s'appelle l'omelette norvégienne. Mais je vais d'abord vous raconter comment elle a été inventée et par qui. Et ça, je trouve ça assez remarquable. C'est probablement le premier plat de ce qu'on a appelé tout à fait récemment la cuisine moléculaire. C'est-à-dire la réflexion et l'entrée de la connaissance et de la physique dans la cuisine. Alors nous sommes en 1867, il y a un chef qui s'appelle Balzac, qui est le chef du Grand Hôtel à Paris. Pour l'exposition de 1867, on lui a demandé de créer un dessert. Et il va s'inspirer des travaux d'un physicien, Benjamin Thompson, qui lui s'est intéressé à la conductivité des blancs d'œufs, figurez-vous, et il a découvert que, en fait, le blanc d'œuf n'avait pas de conductivité thermique, ou en tout cas qu'elle était très faible. En gros, quand vous chauffez du blanc d'œuf, il ne transmet pas cette chaleur. Donc il a eu l'idée d'enrober de la glace dans une meringue constituée de blanc d'œuf, laquelle meringue est ensuite flambée, et qu'en flambant, eh bien justement, la chaleur ne pénètre pas et ne va pas faire fondre la glace qui est à l'intérieur. Absolument génial. Et quand on lui a demandé de baptiser cette recette, eh bien, il a fait une petite boulette géographique parce que ce fameux physicien Benjamin Thompson était d'origine américaine, mais il habitait en Bavière. Et il a commis une petite boulette parce qu'il croyait, notre ami Balzac, que la Bavière n'était pas en Allemagne, mais qu'elle était en Norvège.
Ah oui, c'est
et donc
là, c'est la grosse boulette géographique.
Ouais,
quand
voilà.
Même,
hein, et donc il a baptisé sa recette l'omelette norvégienne.
Qui aurait dû s'appeler
l'omelette allemande.
Bavaroise.
Exactement. Bavaroise. Ouais. Voilà. Ouais. Alors pour la réaliser, c'est pas très difficile en réalité. Vous allez prendre de la glace, ça vous pouvez l'acheter.
Quel type de glace?
Une glace à la vanille. Une bonne glace à la vanille. Vous prenez des biscuits à la cuillère.
Oh, j'adore les biscuits à la cuillère.
Donc, vous faites dans un moule, vous mettez un tapis de biscuits à la cuillère que vous imbibez d'un sirop. Alors, pour faire le sirop, c'est pas difficile, hein. C'est 150 centilitres d'eau, 75 grammes de sucre et un petit peu de rhum. Vous imbibez vos biscuits. Vous posez votre glace qui a légèrement ramolli dessus. Vous faites bien prendre tout ça. Pendant ce temps, vous faites une meringue avec 3 blancs d'œufs et du sucre glace et du sucre semoule, 75 grammes de chaque. Faites une belle meringue avec tout ça. Vous enrobez ensuite votre glace et le biscuit avec la meringue. Et vous êtes prêt au service. Alors attention, c'est spectaculaire. Vous mettez ça au milieu de la table, une petite casserole dans laquelle vous versez du rhum, vous le chauffez un peu, vous le flambez. Et vous venez verser votre rhum flambé par-dessus la meringue. Ça va cuire la meringue, évidemment, ça va la chauffer. Mm-hmm. Mais, comme je vous l'ai expliqué,
La glace ne va
pas fondre. Et donc, vous avez un dessert assez spectaculaire hein, de cette meringue en feu au milieu de la table et la glace qui ne fond pas. Et
donc, en fait, le blanc d'œuf, c'est un isolant.
Pour David qui pioche ses idées.
Oui, parce qu'en fait, il s'est rendu compte que c'était mieux de mettre du blanc d'œuf que de l'amiante, en fait,
autour de la glace. C'est un bon goût, mais c'est meilleur pour la santé.
Voilà.
Eh bien, merci Olivier. On retrouve évidemment toutes vos recettes sur le site d'europe1.fr. Le moment du mot de la fin arrive à grands pas. Le mot de la fin, c'est l'explication d'une expression par Stéphane Bern. Aujourd'hui, Stéphane, se faire pigeonner.
Oui, Mathieu, bon, faut le dire, derrière votre air de bout en train de mon camarade, les auditeurs et les auditrices doivent le savoir, vous êtes dur en affaires, un businessman redoutable. Bref, n'est pas né celui qui va vous pigeonner.
Oh que non.
Mais se faire pigeonner, quel rapport entre se faire avoir et le pigeon?
Oui, d'ailleurs, on dit être le pigeon dans une affaire, quand on se fait avoir, on dit aussi être le dindon de la farce, mais bon, ça c'est une autre histoire.
Ça, je reconnais toujours l'amateur de la cuisine rôtie, vous êtes. Mais revenons à nos pigeons. Au XVIe siècle, les gens de la Haute étaient friands d'un oiseau qu'on appelait la huppe, doté d'une crête très fournie en plumes. Il fallait, avant de la consommer, les lui retirer. Il fallait le déhupper. Cela donnera le verbe duper, d'ailleurs. De plus en plus rare, l'oiseau fut remplacé par le pigeon. Beaucoup plus facile à piéger. Le volatile était adoré au Moyen-Âge, aussi bien comme moyen de communication que cuisiné. La fiente de pigeon était d'ailleurs un très bon engrais pour le potager. On appelait ça de la Colombine. Mais d'où vient se faire pigeonner? Eh bien, quand un seigneur avait un pigeonnier, cela voulait dire qu'il était riche. Il existait même une règle, la quantité de pigeons que l'on avait devait être proportionnelle au nombre de terres que l'on possédait. Quand arrivait un mariage, il était monnaie courante que les seigneurs faisaient des boulins supplémentaires, comprenaient des niches à pigeons dans les pigeonniers pour faire croire qu'il en possédait plus qu'il n'en avait en vrai. Ainsi, on se faisait passer pour plus riche qu'on ne l'était. Le père de la future mariée se faisait alors pigeonner et devenait, pour vous faire plaisir Mathieu, le dindon de la farce.
Tout s'éclaire avec vous Stéphane. Ouais, c'est fou, hein. C'est merveilleux. Et parfois les gens dans les dîners, on parle de cette séquence du mot de la fin, et je me souviens du thème de la séquence, donc je le lance, et les gens me disaient, donc ça vient d'où? Et là, je ne m'en souviens jamais.
Non, mais ce qui est incroyable, c'est que vous alliez encore dans des dîners.
Non. Oh mon Dieu, j'ai été piégé. Je me suis pigeonné tout seul en cette fin d'émission. Très peu. Des dîners à quatre.
Oui, voilà. Bien sûr.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré aujourd'hui aux hommes de glace de l'histoire. Lequel vous a le plus fasciné, Stéphane? Ötzi, la momie glacée, Richard Kuklinski, le célèbre pseudo-tueur à gages, ou Vladimir Poutine, le célèbre défenseur des droits de l'homme?
Vous êtes très sincèrement, c'est Ötzi.
C'est
fascinant l'histoire d'une momie qu'on retrouve 53 siècles après et qui révèle tous ses secrets.
Demain, mon petit homme me dit qu'il va y avoir une sacrée ambiance dans le studio et qu'on écoutera peut-être la Compagnie Créole.
Comme dans les tableaux du douanier Rousseau.
Oui Mathieu, pour parler non pas de la Compagnie Créole, hein, bien sûr, mais du douanier Rousseau, d'Emmanuel Kant et de Jackie Kinney. Leur point commun...
Ils étaient fans de la Compagnie Créole.
Non, imaginez-vous leur point commun. Ils n'ont jamais, mais jamais voyagé.
Comme nous, depuis la Covid. On se remontera donc le moral en se disant que d'autres ont vécu ça, ne pas pouvoir voyager. À demain Stéphane.
À demain Mathieu, à demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.